alentours de 15h, on diffuse des messages pareils. Ça donne soif de culture et de... et de, d'apprendre. Voilà, donc la CGT associée à un génocide. Voilà, on aimerait bien en savoir un peu plus. Voilà, sinon, merci beaucoup pour les trois dernières émissions. Magnifique. Continuez. Voilà, c'est Sylvain du 91. On lâche rien. Salut.
Oui, bonjour à tout le monde, là. Je vous appelle parce que je passe sur l'autoroute, là, devant l'aire de Fabel, là, dans le Nord. Et à ce moment, j'écoute vos émissions, là, qui m'ont beaucoup plu, là, sur les grèves de, des mineurs. Et la première fois que vous les avez diffusés, il y a un auditeur qui avait demandé si de nos jours, il y a eu des cas similaires. Et moi, je suis chauffeur routier et je vais livrer aujourd'hui dans le Nord, à Armentières. Et je me souviens qu'en 92, lors de la grève des permis à point, il y avait un gros barrage là, à Falampin, et l'autoroute A1 était bloquée. Et il me semble qu'on était... on avait un président de la République socialiste à ce moment-là. Et pour dégager le bouchon, ils ont fait intervenir des chars, il y a eu des blessés. Au bout de 15 jours de grève, c'était les routiers qui faisaient grève pour défendre leurs droits et leur travail. Et voilà, il me semblait que c'était un gouvernement socialiste en 92. Il y en a, ça leur ferait du bien de relire la doctrine socialiste, parce que le pauvre Jean Jaurès, il doit se retourner dans sa tombe. Allez, je vous embrasse à tous et vous faites bon courage. Et bonne fin d'année. Au revoir.
Bonjour à tous. En 1948, j'avais 7 ans et je me souviens avoir vu un soir entrer mon père. Mon père était mineur gréviste au puits Plichon de Montceau-les-Mines. Il était soutenu par deux camarades. Il avait les yeux gonflés, boursouflés. Il avait subi l'effet des gaz lacrymogènes pendant toute une journée. Il en est resté pratiquement aveugle pendant une semaine. À cette époque-là, les combats contre les CRS étaient très durs. Pendant un mois, j'ai été nourri par mon institutrice, Mme Michel, membre du Parti communiste, n'en déplaise à certains intervenants du répondeur. Je conserve intact dans la bouche le goût de ces gratins de macaroni, le goût de la solidarité, en fait. Les petits commerçants du quartier, guère plus riches que mes parents, fournissaient quelques provisions à payer quand on pourrait. Cette période a été un grand moment de solidarité de la classe ouvrière. Des collectes étaient faites dans les usines du bassin, en particulier aux usines Schneider. On ne se sentait pas seul, et je ne peux m'empêcher de penser à la solitude des actuels grévistes des aéroports. Ils ne sont que quelques centaines. Un effort collectif leur aurait permis de tenir des semaines et faire aboutir leurs revendications. Mais ce que j'appelle la camisole sociale paralyse le peuple, le rend insensible, égoïste. Comment en sortir dans notre pseudo-démocratie? Comment faire comprendre qu'il faut se rassembler? Merci Daniel et toute l'équipe de nous redonner de l'espoir à travers tes émissions. C'était Jacques de Brassifort, près de Chalon-sur-Saône.
Jamais les oreilles loin du front, telle est la devise des auditeurs de là-bas, si j'y suis. Surtout ce dernier message, particulièrement touchant, où il est question de gratin de macaroni. Et ça, ou bien vous avez connu le gratin de macaroni, ou bien vous n'avez pas connu le gratin de macaroni. La France est divisée en deux, et moi je me souviens des gratins de macaroni de mon enfance. Cet autre message sur la grève de 1992, en effet, les chauffeurs routiers, mais pas seulement les chauffeurs, il y avait aussi des patrons, petits et grands patrons, qui bloquaient la circulation dans le nord de la France contre le permis à point. C'était l'époque de Tarzan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce joyeux énergumène qui s'appelait Tarzan, qui était l'une des figures de ces protestations contre lesquelles, en effet, le gouvernement socialiste de Bérégovoy avait utilisé la manière forte. Encore faut-il comparer, vous pourrez le faire aujourd'hui, au cours de cette heure que nous allons passer ensemble, troisième volet, comparé entre la grève des mineurs de 1948 et celle des transporteurs routiers de 1992, si vous vous en souvenez. En 1948, grande grève, qualifiée à l'époque d'insurrectionnelle et suivie d'une répression particulièrement brutale et violente. Et aujourd'hui, 63 ans après, des mineurs et leurs familles se battent encore contre l'État qu'ils accusent d'avoir licencié pour fait de grève. Et au printemps dernier, la Cour d'appel de Versailles a reconnu les droits de ces mineurs. Alors, s'agit-il d'une victoire? Oui, mais, plus ou moins, car l'État s'est pourvu en cassation et, pour l'instant, on n'a pas encore l'issue finale de cette longue lutte, probablement la plus longue de l'histoire sociale française. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
5 ans,
15 ans,
18 ans,
10 ans,
15 ans,
18 ans,
12 ans,
23 ans,
15 ans,
10 ans,
18 ans,
12 ans,
5 ans,
25 ans.
Voilà, je travaille à l'INA depuis 5 ans.
Je suis documentaliste,
correspondant de chaîne,
formatrice,
technicienne,
ingénieur,
chargé de production,
juriste,
restaurateur,
magasinier,
secrétaire,
monteur,
commercial,
rédactrice,
graphiste,
assistante,
chercheur,
gestionnaire,
chauffeur.
Je suis attaché à cette boîte et comme tous mes collègues,
j'ai fait des efforts pour atteindre les objectifs fixés par la direction et par l'État.
Aujourd'hui, je trouve qu'on se moque de moi.
Je suis écœuré par le mépris de la direction.
On nous propose des augmentations de salaire entre 8 et 12 euros par mois.
Non seulement c'est pas suffisant, mais c'est même insultant.
Faut que nos dirigeants ouvrent les yeux. On en a ras-le-bol.
Ras-le-bol.
Nos métiers ont évolué.
Nos tâches se sont multipliées, le coût de la vie augmente.
Nos salaires sont gelés depuis des années.
Des collègues me confient même avoir songé à bosser au noir pour vivre décemment.
Ils n'ont pas de gêne d'en parler, et pour cause. Si quelqu'un doit avoir honte,
c'est notre employeur.
D'autres vivent seuls et ont des enfants à charge.
Leur situation est de pire en pire.
Moi aussi, j'en ai marre des fins de mois difficiles.
Ça fait belle lurette que mes loisirs et mes sorties sont réduits au strict minimum.
J'ai juste assez pour payer mon loyer,
mes impôts, mes factures et pour bouffer.
Bientôt, je ne vais même plus pouvoir me soigner.
J'en peux plus d'être à découvert tout le temps.
Dès le 5 du mois, mon compte est dans le rouge.
J'ai besoin d'une véritable augmentation de salaire.
C'est vital.
Je suis attachée à cette boîte, mais je suis écœurée parce qu'elle dépense d'un côté et nous refuse de l'autre. Alors que le président Mathieu Gallet investit de l'argent public dans la déco et les paillettes,
et qu'il file des indemnités de départ exorbitantes à certains,
il reste sourd à notre demande.
Pourtant, on fait pas la manche, on veut des salaires décents, on veut un vrai rattrapage.
Un vrai rattrapage.
On veut des salaires décents, on veut un vrai rattrapage.
Les légions silencieuses. Dédié à tous ceux qui se lèvent tôt et qui triment sans bruit sur les chantiers, dans les usines et aux champs. Nous sommes toute une armée, nous sommes légions. Nous nous évanouissons dans l'aube minuscule et reparaissons hagards au crépuscule, étranges adeptes, le travail pour religion. Nous autres façonnons le monde et les cités. Qui peut raser les montagnes, extraire de leur roc l'acier des voitures, des fusils, la pierre des jetés? Nous sommes légions, les bras de l'imaginaire. Qui taille le bois, soude la tôle, enfonce le soc, selon les plans et les moindres désirs du maître? Nous sommes légions, les innombrables mains qui choient. Qui nourrit, qui vêt, qui équipe et qui loge, chacun, du jour où il naît, au soir où il choie. Nous sommes légions, un fleuve de sueur coule de nos fronts. Chaque jour nous épuise, chaque jour la mort nous croque, et c'est pour une misère que nous nous sacrifions. Peu importe nos besognes et notre nombre, au travail nous quittons le monde des sens. Les cris de nos douleurs résonnent en silence. Les chantiers, les usines, les champs sont peuplés d'ombre. Bon courage à tous et merci pour votre émission. C'était Munam, poète, ouvrier et fier de sa condition.
Actualité française.
Dans le Nord, la grève des mines continue, le charbon ne sort plus.
14 octobre 1948.
Et faute de combustible, on peut craindre que la production française soit menacée d'arrêt. De graves bagarres ont opposé grévistes et forces de police devant le puits numéro 5. Il y a eu des blessés.
La grève, elle était juste, hein, on réclamait notre but.
De plus, il y a eu un mort étouffé par la foule. Un cortège compact et silencieux a accompagné à sa dernière demeure la malheureuse victime.
Ben oui, c'était mené par les communistes, mais il n'y avait qu'eux qui pouvaient. Il n'y avait qu'eux qui nous écoutaient. Hein, c'est ça qu'il faut dire, mais il faut voir les fiches de paye. Et comme ça, on a tout compris. Moi, quand j'ai vu la première fiche de paye, j'ai dit, quoi, acheter du pain, hein, c'est tout.
Les pauvres mineurs, ils sont vraiment démunis, ils ne sont pas armés, ils ont contre l'armée, etc., avec des automitrailleuses. Le rapport des forces est totalement disproportionné.
Le problème de la grève actuelle commande l'attention nationale. Le gouvernement doit y faire face avec lucidité, avec humanité, avec décision.
C'était la guerre, hein. C'était la guerre. La guerre décrétée par le gouvernement contre les mineurs.
Et c'est justement quand on a des rapports de force aussi disproportionnés qu'on se bat finalement contre tous. C'est un combat désespéré, quoi, je dirais.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la place où j'y suis, avec Charlotte Perry, la grève des mineurs de 1948.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est le bateau que vous voulez acheter.
Il n'est pas encore là, hein ?
D'accord.
Il faut y être 10 minutes avant.
D'accord, merci.
Bonjour. Bonjour. Je voudrais un billet pour le Cap Ferret, s'il vous plaît.
Un aller simple, un aller retour ?
Un aller simple, s'il vous plaît. Merci.
Bonne journée. Au revoir.
Alors voilà, on se trouve à Arcachon. On vient de prendre un billet pour aller au Cap Ferret, à l'extrémité du bassin d'Arcachon, de l'autre côté. Là, on se trouve bien loin du paysage minier des Terries. Tout autour de nous, il y a la mer, la plage. On se trouve sur le port de Plaisance. Il y a plein de petits bateaux amarrés. Il y a déjà pas mal de monde sur la plage. Il y a quelques baigneurs qui se risquent à l'eau. Donc nous, on va aller prendre le bateau pour se rendre au Cap Ferret, où vit Achille Blondeau. Achille Blondeau était mineur, fils de mineur à Rébeaucourt, dans le Nord. En 1948, il était dirigeant syndical de la Fédération des travailleurs du sous-sol, CGT, à Lens. Par la suite, en 1968, il est devenu le secrétaire général de cette Fédération nationale des travailleurs du sous-sol. Et aujourd'hui, il est un des derniers dirigeants nationaux à avoir connu les grèves de 1948. Alors justement, nous, on va aller le rencontrer pour essayer de comprendre le caractère passionnel de ces grèves. Des grèves qualifiées d'insurrectionnelles par le gouvernement socialiste de l'époque, qui ont été réprimées dans le sang et qui se sont déroulées dans une atmosphère politique très particulière, qui fait qu'il aura fallu attendre plus de 60 ans pour que les mineurs licenciés et révoqués à cette époque soient réhabilités dans leurs droits.
Vous aurez beaucoup de mal à trouver un livre entier sur cette histoire, sur cette épopée sociale française que fut la grève de 1948. Un grand film, une grande histoire? Non. Des bouts, des recherches, des documents épars, des cahiers de l'Institut d'histoire sociale minière, mais aucun travail véritablement d'ensemble, aucune création à la hauteur et à la profondeur de ce que fut cet événement. 56 jours de grève du 4 octobre au 28 novembre 1948. Le 4 octobre, ils sont 340 000 mineurs en grève dans toute la France, dans les 6 bassins miniers français, pas seulement à Lens, mais partout. Le 7 octobre, premier mort en Moselle. Le 13, 6 femmes de grévistes sont blessées par les CRS à Forbach. Et le 21 octobre, ça c'est un très très grand moment quand même, à Monceau-les-Mines, une centaine de CRS sont faits prisonniers par les mineurs. Ça, quand vous passez, je pense encore aujourd'hui, dans la région de Monceau-les-Mines, il est bien rare qu'on vous raconte pas cette histoire. En tout cas, on la racontait parfois avec un vieil accent polonais. Il n'y a pas si longtemps, et c'était un gouvernement socialiste, 45-47. C'est un épisode, c'est l'épisode de la bataille pour le charbon. Il faut du charbon pour retrouver l'énergie nécessaire à redresser le pays. Mais en 47, un nouveau gouvernement avec une autre politique, et les avantages, entre guillemets, obtenus par ces mineurs héroïques sont remis en cause. 45-47, les communistes sont au gouvernement, ils n'y sont plus avec ce nouveau gouvernement de 47, donc ça leur donne une certaine liberté d'action. Une grève à la fois pour les statuts, pour pour le pain, pour la reconnaissance, pour les salaires. Il y avait une inflation terrible quelque temps auparavant. Mais cette grève était-elle politique, comme on dit, entre guillemets? Y avait-il derrière ces grévistes la main de Moscou qui était là? C'est ce que prétendaient ceux qui ont réprimé cette grève, à commencer par le ministre de l'Intérieur, le socialiste Jules Moch. Des années plus tard, 63 ans plus tard, nous retrouvons au Cap Ferret l'un des essentiels protagonistes de cette histoire, Achille Blondeau, responsable syndical à la Fédération des travailleurs du sous-sol CGT de Lens en 1948, et qui nous attend tout frétillant pour nous raconter cette histoire jusqu'à 16h, c'est là-bas que j'y suis, la grève des mineurs de 1948.
Il y a longtemps, et je m'en rappelle, c'est aux lames et de la région, il fallait le saquer à l'pelle d'un chétal et j'carbon. Un étau noyé de sueur, animé tôt tout 5 heures, un savour chané tôt pas pour rien, chez comme chat qu'a gagné au sapin. Pour chat un étau pas tout seul, là-haut il n'a vaut deux, tout à l'chette du chevalet, il n'arrête pas de tourner. Quand allait elle vaut ses yeux, un étau tout heureux. Aujourd'hui, elle vaut plus chat, j'aime trop plus que ça retournera. Ils vont bientôt disparaître, les molettes. Y'a Totoche, un vieux mineur, qui vient d'avoir l'espation. Y'a Banmo à 5 heures, qui ne peut plus virer le fond. Comme il dit chez tôt le bon temps, si j'avoue encore 20 ans, j'apprendrai à tous ces jeunes d'Aster comment tenir un marteau piqueur. Mais en ravisant à l'air, tout d'un coup, y'a vite brère, tous les jours et de bon matin, des levouillettes et de Saint-Gardin, ils veillent aux tournées de roulettes, chat vivot, chez Tobien. Aujourd'hui, chat ne marche plus, chez muet comme un statue, avaler, faire disparaître nos molettes.
Là, Achille Blondeau, on est chez vous au Cap Ferret. Oui. C'est à l'extrême point du bassin d'Arcachon.
C'est ça, de l'autre côté.
Je suis né dans le nord, dans le bassin minier du Douaisis, et j'ai grandi non loin de là, à Rabaucourt. En 1948, je venais de quitter la mine depuis quelques mois. J'avais quitté début juillet. Et j'ai vécu la grève à la direction régionale des mineurs du Nord-Pas-de-Calais. Et j'étais également membre du bureau de la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait en 1948? Comment a débuté la grève? Il y avait des profondes racines au mécontentement des mineurs. Comment tout ça a débuté?
Il faut se rappeler le grand rôle que les mineurs ont joué pendant la guerre. Les mineurs étaient à l'avant-garde de la lutte de masse contre les Hitlériens. Ensuite, alors qu'ils étaient fatigués, sous-alimentés, on a demandé aux mineurs un effort pour relever le pays. C'est ce qu'on a appelé la bataille du charbon. Les mineurs l'ont gagné. Et à l'époque, vous aviez les affiches éditées par le gouvernement Leroyer, mineurs, premiers ouvriers de France. Bref, les mineurs étaient les sauveurs de la France. Et quelques mois après, en 1948, alors, changement de programme, on avait plus besoin du charbon français. À terme, on prévoyait très vite la fermeture de tous les puits dits non rentables. au profit des mines allemandes où le rendement est beaucoup plus élevé. C'est ce qu'on a appelé le plan Schuman, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Fallait briser les mineurs pour pouvoir appliquer une telle politique. C'est pour ça qu'on voulait briser les mineurs en 1948. La corporation l'a senti. Ça. Vous savez, les ouvriers ont quand même du flair. C'était un changement fondamental de politique par rapport à ce qui s'était passé en 1946, où le mineur était l'ouvrier le mieux payé de France. Là, il voulait en faire l'ouvrier le moins bien payé. Disons que dès que les ministres communistes ont été exclus du gouvernement, début mai 47, tout de suite, on a vu la différence. En même temps, faut pas oublier qu'on était quelques mois après la scission syndicale. Scission syndicale qui a été fomentée par les dirigeants de forces ouvrières au début de 1948. La fédération du sous-sol était la première fédération de la CGT, disons la fédération d'avant-garde, et porter des coups à la fédération des mineurs, détruire, parce que le but en définitive de la répression, ça a été de détruire la Fédération nationale des mineurs, c'était affaiblir considérablement la Confédération. C'était le but visé.
Et donc là, on va regarder un film qui a été fait justement par la Fédération des travailleurs du sous-sol, c'est ça ?
C'est un film qui a été commandité par la Fédération. Et c'est Louis Daquin, qui est avec son équipe, qui l'a réalisé, qui a un film extraordinaire, qui a suscité beaucoup de craintes chez le gouvernement. Il n'a jamais eu son visa pour être produit, pour être présenté. Et tout de suite, quand il est sorti, chaque fois qu'on le présentait dans une salle, les flics arrivaient et saisissaient la bobine. Ce qui fait que nous en avions une quinzaine de bobines et maintenant elles sont extrêmement rares. La plupart ont été saisies par les flics. Au nom de la liberté.
De la grande lutte des mineurs. Réalisé bénévolement par les techniciens et travailleurs de l'industrie du film CGT.
La mine, paysages durs et sombres où la poussière noire recouvre tout.
Sinon, le Pas-de-Calais, hein.
La mine, décor de roman, prétexte à belles images, source inépuisable d'effets faciles.
C'est un film qui a été tourné uniquement dans le Nord, le Pas-de-Calais. À l'époque, il y avait un peu plus de 100 puits.
Mais la mine, qu'est-ce encore ? Surtout et avant tout des hommes. Des hommes descendent sous terre quand le soleil se lève et ne remontent à la surface qu'avec l'ombre.
Vous voyez, les mineurs avaient encore la barrette de cuir avec la lampe à la main. Il n'y avait pas encore ce qu'on appelait les lampes chapeaux.
La poussière de charbon qui de mois en mois pénètre dans les poumons. Les hommes, ce sont les mineurs qui ont tout donné. Les grèves héroïques de 41 qui ont traversé la guerre des nazis. Les combats de 44. Qui firent plus proche la victoire, et enfin l'extraordinaire période qui suivit la libération, la bataille du charbon. Alors qu'en 1919, il avait fallu 5 années pour compenser la perte causée par la guerre, en 1945, moins de 2 années suffisent à combler le retard. Les mineurs relèvent la France avec leurs piques, avec leurs bras, avec leur cœur. Et cette période d'enthousiasme et de courage, c'est celle que choisit Daniel Meyer pour traiter les mineurs de roubions. C'est celle que choisit Schuman pour leur reprocher de travailler le dimanche. Quel respect brusquement pour les droits syndicaux. Ou bien ne serait-ce pas plutôt parce que le charbon américain offre ses avantages à tous ses empiristes. Encore une fois, il n'y a plus de sens politique dans la tête d'un mineur de fond que dans celle d'un politicien. Leurs délégués sont arbitrairement chassés. Par des décrets de brimade, le ministre Lacoste les exclut du contrôle des caisses de sécurité. La sécurité dans la mine, précaution indispensable dont dépend l'existence de milliers d'hommes, est insuffisamment assurée. Courrière, petite Rossel, Liévin. Des blessés affreusement mutilés, des corps écrasés, brûlés, martyrisés. Ce métier, le feriez-vous, messieurs les politiciens ? Le feriez-vous pour ce salaire de misère ? Le feriez-vous pour 14 300 francs par mois ? Les mineurs sont écœurés par toutes ces ignominies. Cette grève est juste, cette grève est unanime, elle est votée à 90% des voix.
C'est des manifestations de...
Ah oui, il y avait naturellement, quand il y a une grève comme ça, on fait vivre la grève avec des manifestations. Et là, c'est les femmes, remarquez là, ce qu'on avait vu, énormément de femmes dans les rues. Les femmes ont toujours joué un grand rôle dans les grèves de mineurs.
Et dans les rues, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux affirment leur droit à la vie.
En soutien à leur mari.
Et là, ce sont les enfants qui sont accueillis.
Enfin, il y a des milliers d'enfants qui sont partis.
Dès le début de la grève, la solidarité de la France entière se manifeste avec force.
Il y a eu un accueil dans la région parisienne extraordinaire. D'ailleurs, il est resté pendant des décennies et des décennies des liens entre les familles qui avaient reçu des gosses. Et auparavant, en 1946, les mineurs avaient donné une petite partie de leur charbon qu'ils avaient pour les écoles et les hôpitaux de la région parisienne. Et la population parisienne l'avait pas oublié. Elle a rendu l'appareil pendant la grève de 1948. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire.
Ça, c'est des voitures qui partent vers Gentilly, vers la région parisienne.
Oui, des voitures de la région parisienne.
Pleines d'enfants.
Qui partent quand les chars arrivent. C'est une image terrible.
Le gouvernement, qui selon l'expression même de Jouot, espérait laisser pourrir la grève, est obligé de constater que l'entraide et la solidarité de tous permettent aux mineurs de tenir. Et plein de fureur, il dépêche ses ambassadeurs habituels. Et ces images imposent un terrible rapprochement. Des enfants qui fuient et des soldats qui montent, images de guerre. Images de la guerre que le gouvernement déclare au peuple.
Et eux là, c'est qui? C'est des...
C'est les soldats là.
Ils rappellent des classes et envoient sur place de grands déploiements de forces.
Le Nord, le Pas-de-Calais est occupé. Pendant la guerre, c'était par les Allemands, et là, c'était par les CRS et les troupes françaises.
Un véritable état de siège est organisé.
60 000 hommes de troupes contre les mineurs. 60 000. C'est la grève la plus réprimée qu'il y ait eu le lendemain de la guerre dans notre pays. Et avec 6 morts au total.
Pourtant, les mineurs ne se laissent pas impressionner. Dans le calme et l'union, la grève continue. Mais le gouvernement ne se contente pas de menacer. Le 7 octobre, à Merlebach, le mineur Jean Sec est tué à coup de crosse. Et l'indignation monte dans toutes les poitrines. Parce que pour le peuple, la vie d'un homme, c'est quelque chose, monsieur Moche. Quelque chose de plus important que votre prestige gouvernemental. Et pour protester contre cet assassinat et les provocations policières, la Fédération des mineurs décide de suspendre la sécurité pendant 24 heures à titre d'avertissement. Et c'est vous, monsieur Moche, qui en portez la responsabilité parce que c'est vous qui l'avez cherché et provoqué. Le jour même de cette décision, se servant de ce prétexte, le gouvernement et ses CRS renforcent ses brutalités et déclenchent de vastes opérations militaires. Toutes les armes entrent en action. Les mitrailleuses crachent. Deux hommes meurent sous les balles.
Là, c'est Firmini. C'est Firmini quand ils ont tué Barbier.
C'était un mineur, Barbier ?
Oui, c'était un mineur.
La police lance des bombes lacrymogènes importées d'Allemagne.
Et on voit des mineurs lancer ce qu'ils peuvent.
Des cailloux. En face, il y avait des fusils et même des canons. Ils ont tiré au canon. Et de l'autre côté, il y avait des cailloux.
Les mineurs, aux mains nues, ripostent avec ce qu'ils peuvent. Dans cette lutte inégale, ils parviennent encore à rendre coup pour coup avec ces armes improvisées. Et on trouvera des tribunaux, on trouvera des juges pour condamner ces hommes que l'on accuse d'avoir utilisé des armes à feu. Moche le menteur tente d'assassiner aussi la vérité.
Moche le menteur.
Ah oui, c'est Jules Moch, le ministre socialiste de l'Intérieur, a prétendu que la police n'avait fait que riposter quand ils ont tué Barbier. Et tous les journalistes français et internationaux qui étaient présents sur place ont publié un communiqué démentant les assertions du ministre de l'Intérieur et indiquant qu'il n'y était parti aucun coup de feu durant les mineurs. Et c'est ça qu'on voyait sur l'affiche, puis qui reprenait ce communiqué de presse.
Avec ce qui a été dépensé pour briser la grève des mineurs, on aurait pu donner satisfaction à leurs revendications pendant 4 ans. Et on préfère accorder 15 000 francs par mois de prime à chaque CRS que 14 300 francs par mois de minimum vital aux mineurs. Mais la colère est dans leur cœur. Et la grève continue. Et les mineurs se défendent avec acharnement contre les furieux assauts des mercenaires déchaînés.
Là, c'est la manifestation de Béthune, je crois.
Il y a un monde fou, c'est fou cette foule.
Oh, Béthune en était des dizaines et des dizaines de milliers.
Les slogans, CRSSS.
CRSSS, il n'est pas juste hein, ce slogan. Parce que quoi qu'on puisse reprocher au CRS, on ne peut quand même pas comparer un CRS avec un SS quand on sait
les horreurs qu'ont pu commettre les SS. Mais enfin, dans le feu de l'action, dans le paroxysme de la colère, il arrive qu'on exagère parfois dans les appréciations.
Conséquence directe du plan Marshall, le matériel et les équipements américains finissent par avoir raison. Des boulons, des morceaux de bois et des pierres trouvées sur place par des hommes totalement désarmés. Les CRS parviennent à envahir les mines. C'est l'occupation, comme autant des boches. Mais ce ne sont pas les CRS qui peuvent faire remonter le charbon. Pour Moche, tous les moyens sont bons, même les plus ignobles. Laissant libre cours à sa xénophobie, oubliant les monuments aux morts de la résistance qui portent tant de noms à consonance étrangère, il offre aux ouvriers étrangers ce dilemme machiavélique. Le travail du briseur de grève ou la frontière. Pour les Espagnols antifascistes, c'est la mort.
Cette manifestation, ça se passe au Puy Bonnel, où Dumais s'est délégué mineur. Regardez ce mineur noir, il n'y en avait pas beaucoup, on voit que lui. Regardez, on voit que lui, ce mineur noir, souriant.
Tenu par le bras par une petite dame.
Cédant parfois devant les tentes, les travailleurs de la mine sortent des puits, drapeau en tête. Au puits Renard, le gouvernement prétend cesser toute exploitation. Puis il lance la fable de la reprise du travail. Mais il paraît que ce n'est pas si facile. Les mineurs n'ont pas cédé. Ils protestent, ils serrent les dents. Ils tiennent le coup, parce qu'ils ont conscience de lutter contre la misère, pour leurs revendications, pour la cause de tous les travailleurs, pour la cause de la nation tout entière.
Tous les mineurs qui occupaient le puits sortent en chantant l'internationale.
Ils sont délogés par l'armée.
Oui, bien sûr.
La lutte des mineurs est la vôtre, elle est la nôtre. Et c'est pourquoi plus que jamais la solidarité doit les soutenir. Donner pour les mineurs, c'est donner pour soi-même. Garder leurs enfants, c'est protéger l'avenir de ses propres gosses. Prenez garde, tremblez, profiteurs et vendus. Le peuple vaincra, il passera sur tout, sur vos chiens, sur vos tanks, sur vos mitrailleuses. Il passera que vous le vouliez ou non, parce qu'il est le progrès, parce qu'il est l'avenir, parce qu'il est la vie même, et parce qu'il est comme elle, inébranlable et invincible.
Elle est formidable, cette phrase de fin.
Oui, ça c'est du Dakin. Hein. C'était un grand cinéaste, ce Dakin. Hein. Oui, il a su vraiment trouver la fin qu'il fallait pour ça. C'est d'une densité extraordinaire.
Et donc, ça a commencé le 4 octobre?
Oui. Eh bien, les puits ont été occupés. Les mineurs venaient occuper le puits comme ils venaient pour descendre à la mine. Alors ça jouait aux cartes, ça jouait aux boules, ça jouait aux dés, ça jouait à n'importe quoi. Ça discutait, ça lisait, et il n'y a eu aucun incident tant que, ça j'insiste là-dessus, tant que la troupe n'est pas intervenue, il n'y a eu aucun incident. C'est les forces de l'ordre qui ont amené le désordre. Les arrestations, les blessés, et les morts, 6 morts. Travail de Jules Mouque, qui était ministre de l'Intérieur, qui était ministre socialiste. Alors, moi, je rigole toujours quand j'entends parler des chars de Tiananmen. D'accord, moi, je condamne. Hein. Je condamne ce qu'ont fait les Chinois là-bas. Mais je voudrais qu'on ne parle pas seulement de ce qui s'est passé en Chine. Je voudrais aussi qu'on rappelle qu'en France, il y a des chars qui ont tiré sur des mineurs, sur des ouvriers français, et qui ont tué. CDF, je sais pas, le terme méprisable, à mon avis, est pas assez fort pour caractériser des hommes comme Lacoste et Mouque. D'ailleurs, sur un grand mur à Billy-Montigny, dans le Pas-de-Calais, on pouvait lire encore cette inscription faite à la couleur blanche, Dieu punira Lacoste et Mouque. Oui, la première fois que j'ai vu ça, j'ai été extrêmement surpris parce que c'est pas un langage que nous en emploie. Hein. Moi, j'aurais dit, bon, il faut envoyer Lacoste et Mouque devant la cour d'assises et les passer à la guillotine. Ça, je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Mais oui, Dieu punira Lacoste et Mouque.
Ainsi, pour la troisième fois en trois semaines,
la chaîne nationale,
je reprends la parole,
3 novembre 1948,
c'est tout d'abord pour remercier les mineurs d'avoir entendu mon appel d'il y a 10 jours.
Jules Moch, ministre de l'Intérieur.
Et les services d'ordre d'avoir témoigné de discipline et parfois d'abnégation. Mineurs, dans votre immense majorité, vous avez compris que de mauvais guides vous conduisaient à la catastrophe pour des intérêts qui n'étaient pas les vôtres ni ceux du pays. Vous avez cessé d'opposer une vaine résistance aux services d'ordre dégageant les puits en vue de les sauver. Vous avez clairement vu que notre devoir vis-à-vis du pays était à la fois de défendre vos puits contre le sabotage voulu par la CGT communisée et d'assurer la liberté du travail aussi sacré que le droit de grève.
Alors, j'ai retrouvé, en ce qui concerne le livret blanc des gueules noires, édité par le comité d'amnistie aux mineurs, et présidé par l'ancien ministre radical Justin Godart, ce texte relate ceci. À propos du mineur Bécard de Decazeville, cet authentique résistant avait accroché un trophée au mur de sa chambre, un vieux Moser tout rouillé qu'il n'avait même pas pris la peine de fourbir, car il ne comptait pas s'en servir. Cela suffit pour qu'en novembre, on arracha de son lit Bécard pourtant malade. Avec fort secours, le traîna dans le sous-sol humide de la gendarmerie. Il a servi son pays volontairement dans la résistance. Il a perdu sa santé à faire du charbon pour notre prospérité, qu'importe. Son mal s'aggrave à la prison malgré la solidarité qui l'entoure. À la veille de Noël, ses bourreaux honteux le relâchèrent précipitamment. Le jour de Noël, Bécard mourut chez lui. Et il est mort chez lui quelques jours après avoir été libéré.
Épisode de la grève de 1948 avec Achille Blondeau, un des principaux protagonistes de cette histoire. Vous avez noté les commentaires du film. En fait, ces commentaires avaient été écrits par Roger Vaillant, assez oublié, mais un grand écrivain qui fut inscrit au Parti communiste français entre 1952 et 1956. Il l'a quitté en 1956 à cause des événements de Budapest. Et vous avez remarqué dans le commentaire comment on amalgame. On dit pas Jules Moch, mais on dit Jules Moche, et puis on fait rimer un petit peu plus loin avec Bosch. Enfin, c'est de la littérature d'urgence et de propagande. On va retrouver Rolande Trempé, historienne, spécialiste de l'histoire des mineurs.
Le lieu de combat, c'est ça qui est intéressant à mettre en relief, c'est le puits. C'est sur le puits que se fait la lutte. Alors, ça suppose aussi des grèves très curieuses, parce que quand vous avez la grève dans une usine, alors la grève, elle est circonscrite à l'usine. Tandis qu'avec la houille, c'est le bassin houillé qui est tout entier, c'est-à-dire une grande circonférence. Et puis, le puits, il y a beaucoup de puits pour une seule concession. Autrement dit, les grévistes, s'ils veulent être victorieux, il faut qu'ils occupent tous ces puits. Et c'est ça le problème. C'est un des gros problèmes qui fait que la grève, elle est éclatée, quoi, en quelque sorte. Si elle n'a pas le soutien de toute la population, elle ne résiste pas. Mais alors, pour l'armée qui occupait, elle aussi, il fallait qu'elle aille de puits en puits. Et entre les puits, il y arrivait des bricoles. Elle était attaquée. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient pour attaquer? Ils n'avaient pas d'armes, contrairement à ce que Jules Moch a prétendu. Et ils avaient des pierres, à ça ils ont lancé des pierres. Et une pierre bien lancée avec un élastique, ça tient bien, ça mûle. Enfin, vous voyez quoi, ils n'avaient que ça pour se battre. Et puis les autres, dans les automitrailleuses, ils ont tiré à tir réel, quoi. Ils ont eu l'autorisation par Jules Moch de tirer à tir réel. Ça, le rôle de Jules Moch dans cette grève est absolument décisif. Parce qu'entre la fin de la grève de 47, et la grève de 48, Jules Moch est devenu ministre de l'Intérieur, 47. Et il n'encaisse pas la fin de la grève de 47. Il prépare la grève qui va suivre. Il y a une véritable provocation de sa part. Et il crée les IGAM. Alors l'IGAM, ça n'a jamais existé dans le droit français. C'était le commissaire de la République qui avait été créé à la Libération, qui est doté de pouvoirs spéciaux. Sinon, le commissaire de la République, il a des pouvoirs civils. Les pouvoirs militaires sont exercés par l'armée. Et s'il n'y a pas entente entre les deux, ça va mal. Alors là, justement, pour qu'il y ait unité, si vous voulez, de commandement, le commissaire de la République devient IGAM. Il est doté de pouvoirs à la fois civils et militaires. Chose qui ne s'était et qui ne s'est jamais revue dans toute l'histoire de France. C'est la grande originalité. C'est l'unique grève qui a été comme ça. Alors, vous voyez tout de suite que Jules Moch va littéralement préparer la répression en créant les IGAM, en rappelant des troupes d'occupation en Allemagne. Autrement dit, il a vraiment préparé la guerre. Il a préparé la répression. Et comme il était fort intelligent, ça a été préparé remarquablement, quoi, si je puis m'exprimer ainsi. Puis alors, évidemment, de l'autre côté, faut pas croire que les mineurs sont aussi des petits saints. Mais ils ne sont pas armés. Ils n'ont rien pour se défendre. Et ils ont contre l'armée. Non mais le rapport des forces est totalement disproportionné, quoi. Et c'est justement quand on a des rapports de force aussi disproportionnés qu'on se bat finalement contre tous. C'est un combat désespéré, quoi, je dirais. En plus de ça, les mineurs, il y a une tradition de lutte et de lutte dure absolument incroyable. Il y a tout un héritage. Et ils ne peuvent pas être au-dessous de l'héritage. Il y avait une fierté. Et on ne pouvait pas faire moins que ce qu'avaient fait les anciens. Alors, enfin, vous voyez comment cette grève, elle a un caractère absolument extraordinaire et exceptionnel. On n'a jamais vu ça, quoi.
L'état de siège, ça voulait dire que nuit et jour, vous aviez des forces policières dans les rues, dans les villes, dans les corons.
Achille Blondeau.
Nuit et jour.
Responsable syndical de la Fédération des travailleurs du sous-sol à Lens en 1948.
On était 250 000 mineurs, désarmés, et 60 000 hommes avec un fusil. Un soldat pour quatre avec un fusil dans les mains, plus les chars, les chenillettes, les canons. À Liévin, les camarades, un pluie de Liévin, ils avaient fait une barricade, ils avaient couché un wagon, ils ont démoli la barricade à coups de canon. C'était la guerre, hein. Ça, c'était la guerre. La guerre décrétée par le gouvernement contre les mineurs. Et alors, tous les généraux battus de 1940, ils prenaient leur revanche, alors, ils dressaient des plans. Bon, maintenant, faut dire que quand ça se battait, les mineurs tapaient aussi, hein. Et ils avaient raison, hein. Ah oui, on n'allait quand même pas prendre des coups sur le coin de la figure, sans riposter. À Monceau-les-Mines, les mineurs ont fait prisonnier une compagnie de CRS. Tout! De l'officier au soldat.
Ils en ont fait quoi?
Eh ben, ils les ont tenus, ils ont envahi le puits, les CRS étaient sur le puits, et puis les mineurs sont arrivés en masse, ils étaient tellement nombreux, alors ils se sont laissés faire prisonniers. Il les a relâchés, qu'est-ce qu'il voulait qu'ils en fassent. Puis il y a eu une grande bataille. Il y a eu Béthune, la bataille de Béthune. Il y avait un docteur dans le Pas-de-Calais qui s'appelait le docteur Verskel, qui était le docteur des mineurs, très aimé des mineurs. Il a été arrêté et quand ils sont venus pour arrêter, parmi les flics, il y a une femme qui a reconnu un flic qui était venu arrêter son mari pendant la guerre. Alors, les femmes ont tout de suite été alertées, ils se sont emparés du flic et ils lui ont enlevé son pantalon. Ça, c'est la grande... Je ne sais pas si c'est seulement dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est la plus grande humiliation qu'on peut infliger à un homme, lui enlever son pantalon. On se sent plus un homme quand on n'a plus de pantalon. Donc voilà, Verskel arrêté avec d'autres. Et on décide une manifestation à Béthune pour libérer Verskel. Quand on est arrivé à Béthune, et quand on a vu les cortèges de mineurs qui arrivaient, les cortèges noirs de monde, Béthune, noir de monde. Alors, Nous, on est allé à la sous-préfecture pour demander que le sous-préfet fasse libérer nos camarades. Il est intervenu en vain. La foule s'est amassée devant la sous-préfecture. La foule a envahi la sous-préfecture. Elle a pris le sous-préfet. Elle lui a mis un drapeau rouge dans les mains. Et on est parti. Un drapeau rouge, c'est un sous-préfet socialiste.
En tête de cortège
en
avec
tête
le...
du cortège, en tête du cortège avec un drapeau rouge. Alors les CRS sont sortis de ces souterrains. Et là, ça a commencé. Là, ça a été la bagarre. À Béthune, ça a été la bagarre. Les soldats sont montés, mais on aurait dit qu'il y avait 3-4 divisions ennemies qui étaient aux portes de Béthune, tellement il y avait de troupes dans Béthune. Et les journalistes ont pris une multitude de photos. Et au travers les photos, ils ont arrêté toute une série de camarades. Alors nous, on avait dit aux camarades, si vous êtes convoqués devant le tribunal, niez, niez. Vous mentez, mais vous mentez à des ennemis, ça fait partie de la lutte. Alors, des camarades, monsieur le président, je vous jure que j'étais pas à cette manifestation. Alors le président du tribunal sortait une énorme photo. On voyait le gars, et disait qui c'est qui était là. Ils ont arrêté des centaines de camarades. Ah oui, ça, la bataille de Béthune nous a coûté cher en condamnés et en amende. C'est pas commun, hein. De cette grève de 1948, on peut en faire un très très gros volume. Et jamais personne n'a écrit dessus.
Comment ça s'est terminé alors? Comment elles sont terminées ces grèves?
Eh bien, les grèves se sont terminées que, elle a été très longue. C'est une des plus grandes grèves à tous les points de vue québécois. Elle a été tellement dure et tellement difficile que finalement, à la fin, ils étaient épuisés parce que faut manger. Et ils refusaient véritablement toute intervention, si vous voulez, pour les aider à terminer cette grève.
Roland Trempé.
Étant donné le rapport de force, il n'y était plus.
Spécialiste de l'histoire des mineurs.
Ils auraient dû la terminer, la grève, plus tôt. Ah ben, ils ont été vaincus, quoi. Ils n'ont pas gagné la grève. Et alors, tous ceux qui avaient été repérés, ils n'ont pas été réembauchés. Enfin, il y a eu, vous voyez, autrement dit, elle a des conséquences à long terme qui se prolongent jusqu'au moment où ils vont enfin obtenir l'amnistie. Il a fallu attendre le gouvernement Mitterrand, 81. Mais vous vous rendez compte, on est 1948, 1981.
Et c'est seulement là, il y a quelques mois, qu'ils ont obtenu que leur licenciement soit reconnu nul, car discriminatoire.
Et c'est ça. Vous vous rendez compte? Ah mais, si c'est un rebondissement à long terme, c'est incroyable. C'est une grève unique en son genre, quoi. Dans l'histoire du mouvement ouvrier français, et l'histoire des mineurs. Elle a laissé des traces incroyables. Et la Fédération du sous-sol est sortie de là, non pas brisée comme ils le pensaient, amoindrie bien entendu, mais dans le vote pour les délégués mineurs à la sécurité qui ont suivi, la Fédération du sous-sol n'a pas perdu. C'est beaucoup plus tard, au fur et à mesure que ça décline, que FO prendra la relève. Mais ils vont retrouver leur unité de combat en 63. Autrement dit, 48-63. Et la grève de 1963 a été une grève unitaire, sans violence, sans répression, et victorieuse. Mais c'est long, 48-63.
La justice a fini par leur donner raison, mais il aura fallu pour cela attendre 60 ans.
RTL, 11 mars 2011.
17 anciens mineurs du Nord-Pas-de-Calais avaient été licenciés par les Charbonnages de France pour avoir fait grève à l'automne 1948. La cour d'appel de Versailles a fini par reconnaître que ces licenciements étaient discriminatoires et qu'il n'y avait pas lieu de faire jouer la prescription, même longtemps après les faits. Et au fond, cette victoire est amère pour les mineurs.
Sur les quelques 3000 gueules noires licenciées à l'époque pour fait de grève, seuls 17 se battaient encore pour obtenir réparation. Les familles vont chacune recevoir 30 000 euros de dommages et intérêts, une somme qui ne compensera jamais le déclassement social de ces mineurs, mais pour leur avocat, Maître Ben Achour, ils ont retrouvé leur dignité.
C'est une réparation qui concerne une souffrance
qui a perdure depuis 60 ans, qui est transmis de génération en génération. Et vous pouvez imaginer le bonheur des petits-enfants, des enfants. Je sais que dans de nombreuses familles, on fait la fête aujourd'hui.
La crainte des familles, c'est que cette joie soit de courte durée et que l'établissement public qui a remplacé les charbonnages de France ne décide de se pourvoir en cassation.
Et voilà, et c'est ce qui s'est passé effectivement, pourvoi en cassation. Madame Lagarde a préféré cette issue, montrant le côté extrêmement revanchard de l'État français. On retrouve Tino Grimbach, l'un des avocats des mineurs.
Alors pendant que j'étais en train de faire ce reportage, il y a eu un retournement de situation, c'est-à-dire que les charbonnages de France, donc l'État, a décidé de contester la décision de la Cour d'appel de Versailles et de porter l'affaire devant la Cour de cassation.
Nous avons espéré que ça se terminerait là, puisque les sommes étaient un tout petit peu plus de 500 000 euros pour 17 familles et leurs ayants droit. Et comparé aux 45 millions d'euros obtenus par M. Tapie dans un arbitrage, je trouve que véritablement le gouvernement se serait honoré s'il était capable de le faire pour Tapie, qu'il aurait pu le faire pour ces 17 familles qui avaient donné beaucoup à notre pays. Et donc tout ce travail, tout cet engagement des mineurs a été vraiment dénié. Et bon, j'estime que là le gouvernement s'est déshonoré en ne donnant pas les instructions pour que cette affaire ne soit pas soumise à la Cour de cassation et qu'elle s'arrête là où elle devait s'arrêter. Donc le débat continue, il va continuer dans les années qui suivent, puisqu'il faudra bien, je pense, un an et demi ou deux ans avant que cette affaire soit tranchée par la Chambre sociale. Et donc moi je pense que c'est minable, parce qu'il y a très très peu de survivants. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre que des hommes qui se prétendent parler au nom de la France, qui ont des responsabilités d'hommes d'État, se complaisent dans la médiocrité à ce point. C'est quand même minable. J'ai pas d'autre mot à dire, c'est minable.
C'était le troisième et dernier volet de la grève des mineurs de 1948, une nouvelle diffusion d'un reportage de Charlotte Perry du 16 juin 2011. Merci à Maître Tienno Grimbach, Achille Blondeau et Rolande Trempé. À lire la biographie d'Achille Blondeau, Achille Blondeau mineur, résistant déporté syndicaliste, de Pierre Outéric aux éditions Le Jet Bleu. Demain, vous retrouverez l'un des meilleurs moments de La Bas si j'y suis, en 2011, les derniers jours d'un grand-père, René, enregistré par sa petite-fille Inès avec sa grand-mère Jeanne. Toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, et sur le site la-bas.org. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de l'émission sur sa page Facebook. À la technique, Florent Layani et Nicolas Slimani, réalisation Bertrand Chaumeton, assistante Marina Touyez. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Caroline de Tabac Info Service. Je vous écoute.
Bonjour, voilà. Ma femme a réussi à arrêter de fumer il y a un an, mais pas moi. Alors depuis, elle insiste pour que je réessaye, mais...
Je comprends. Pourquoi ne pas profiter de vos prochaines vacances? Le changement de rythme est idéal pour arrêter. Moins de stress, on fait du sport, on dort...
Mais je vais devenir invivable, moi.
Non, vous savez, il y a des solutions pour limiter le stress. Vous voulez qu'on voit ensemble ce qui n'a pas marché la dernière fois?
Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 39 89 15 centimes la minute et bénéficiez ensuite d'un suivi personnalisé gratuit par un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations avec Audrey Tison.
Une visite très encadrée pour les observateurs de la Ligue arabe en Syrie. Un défilé de partisans de Bachar el-Assad les a accueillis à Homs aujourd'hui. La délégation a tout de même pu entrer dans le quartier insurgé de Bab Amro. Pour montrer sa bonne foi, l'État a aussi annoncé la libération de 755 détenus qui n'ont pas de sang sur les mains. Une visite critiquée à Paris. Les observateurs n'ont pas pu apprécier la réalité de la situation, estime le ministère des Affaires étrangères. À peine a-t-il repris que le procès d'Hosni Moubarak est ajourné. Seulement 2 heures d'audience ce matin au tribunal du Caire. Le procès doit reprendre la semaine prochaine. Ce matin, l'ancien président égyptien est arrivé en ambulance, puis il a été transporté sur une civière. Mohamed Bouazizi, nommé personnalité de 2011 par le journal britannique Times. Ce jeune Tunisien marchand ambulant s'était immolé en décembre 2010, déclenchant des manifestations dans le pays et indirectement le printemps arabe. La colonisation israélienne se poursuit. La municipalité de Jérusalem approuve la construction d'un complexe touristique et de 130 logements dans la partie est de la ville. Je suppose qu'il s'agit du message de nouvel an qu'Israël nous adresse, répond un négociateur palestinien. Le gouvernement annonce par ailleurs la légalisation d'un avant-poste de colons, celui de Ramat Gilat, dans le sud de Naplouse. En France, le Conseil constitutionnel valide la hausse de la TVA de 5,5 à 7%, ainsi que la création d'une taxe sur les sodas avec sucre ajouté et édulcorant. Un recours avait été initié par des parlementaires socialistes. Bouygues réclame 9 millions d'euros au Canard Enchaîné. Le groupe de BTP assigne le journal en diffamation. Le Canard a mis en cause les conditions dans lesquelles Bouygues a obtenu le chantier du Pentagone français, un contrat à 3,5 milliards d'euros. Le journal affirmait qu'une information judiciaire avait été ouverte pour corruption et favoritisme. L'escroquerie serait plus importante que prévu. À Chinon, une dizaine de nouvelles victimes se sont manifestées, victimes de ce qu'on appelle, celle qu'on appelle désormais la Madoff du Chinonais. Cette quinquagénaire a soutiré au moins 3 millions d'euros en promettant des placements juteux. Elle a été mise en examen pour abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier. 293 000 euros, ce n'est pas le salaire d'un joueur de football, mais celui du roi d'Espagne chaque année. C'est la première fois que la maison royale publie ses comptes. Un geste symbolique alors que le gendre du roi est impliqué dans une affaire de corruption. Et austérité oblige, les salaires de la famille royale ont été abaissés puis gelés cette année. Enfin, un mot de ski, premier podium de la saison pour Tessa Worley. La Française se classe troisième du géant de Lienz. C'est l'Autrichienne Anna Fenninger qui s'impose sur ces terres.
Didier Varraud,
Isabelle Dordain.
Nous serons en direct avec vous sur notre 31.
Ce samedi de 22h à 2h du matin.
Brian Ferry, Mamani Keita, Gaëtan Roussel en concert sur France Inter.
Et à partir de minuit pour vous faire danser jusqu'à 2h du matin.
Roditsky rendra hommage à DJ Mehdi.
Et en direct avec nous dans le studio DJ set exclusif de Jennifer Cardini.
Super.
J'apporte la boule à facettes.
D'accord, et moi je mets mes talons hauts.
France Inter. La différence.
Il est 16h03, je vous donne la parole, Frédéric Odéon.
Bonjour Audrey. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. En musique comme ailleurs, d'ailleurs, la forme c'est très important, mais il est bon de ne pas en être prisonnier. Et Beethoven a été le maître de l'irrégularité tout à fait favorable à l'inspiration. Par exemple, dans son premier quatuor, son premier exercice en quelque sorte, ce n'était plus un élève, c'est-à-dire un jeune maître, Beethoven a placé un scherzo, donc c'est le menuet qui évolue pour aller plus vite. Et ce scherzo, il est irrégulier, il y a une indication de tempo, allegro molto qui est noté, donc très vite. Et puis le trio, c'est la deuxième partie, autrefois jouée par trois instruments pour reposer l'oreille dans le menuet, et tout ça est un peu chamboulé parce que Beethoven, il veut une musique vivante, il veut une musique qui ne soit pas trop cadrée, académique, et du coup le menuet est devenu turbulent. Thank you. Scherzo du premier quatuor à cordes, opus 18, Ludwig von Beethoven, interprété par le quatuor Artemis. Et voici maintenant un bel instrument à l'honneur, la clarinette. Et Félix Mendelssohn, qui n'était pas un révolutionnaire, contrairement à Beethoven, a écrit en hommage à deux musiciens qu'il admirait, Berman, père et fils, Heinrich et Karl. C'est-à-dire que Heinrich avait été le musicien préféré de Karl Maria von Weber. Donc il avait un son, paraît-il, absolument chantant, merveilleux, très nuancé. Et son fils a aussi manifesté beaucoup de qualités. Alors Mendelssohn leur a dédié, c'est bien charmant, ce deuxième morceau de concert qu'on peut finalement qualifier de familial, allegretto grazioso.